J'ai une très bonne question à vous poser. Êtes-vous conscient que nous sommes tous des pécheurs? La parole de Dieu va mettre la lumière sur cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on a des questions dont les réponses vont réellement nous apprendre à connaître Dieu, à voir la grandeur de son amour pour nous. Voici nos questions. Devons-nous tous être conscients que nous sommes des pécheurs? Par quel mérite pouvons-nous venir à Dieu? De quelle manière pouvons-nous connaître Christ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour le servir et pour marcher dans ses voies? Comment pouvons-nous savoir si notre vie reflète la gloire et l'amour de Christ? Est-ce que Christ est toujours disponible pour nous? De quelle manière est-ce qu'on peut se consacrer à Dieu? Comment pouvons-nous savoir si nous obéissons à Christ? Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Dieu désire vraiment que nous connaissions la réponse à chacune de ces questions, afin qu'on puisse tous avoir une relation extraordinaire avec Lui. Il veut se faire connaître à nous. C'est pourquoi il nous a laissé la Bible, sa parole. C'est pourquoi le pasteur Régent Joly est avec nous pour nous donner cet enseignement qui provient des Saintes Écritures. Demandons à Dieu de toucher nos cœurs. Prions. Oh oui, Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs par ta parole. Fais-toi connaître à nous d'une manière encore plus intime que jamais. Parle-nous, instruis-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous reprenons l'étude du chapitre 8 du livre du Lévitique au verset 14. Ce texte traite de la consécration des prêtres. Après avoir étudié le reste du chapitre, je vous donnerai une définition de la consécration au chapitre 9. J'espère que nous nous rendrons jusque-là aujourd'hui, car nous voulons progresser. Et j'espère que c'est votre cas, votre désir à vous aussi. Des versets 14 à 30, nous avons la purification d'Aaron et des prêtres par le sang des sacrifices. Chers amis, débutons notre lecture. Lévitique chapitre 8, verset 14. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Le taureau était le sacrifice d'expiation du souverain sacrificateur. Les quatre fils d'Aaron ont pu aussi se l'approprier comme sacrifice d'expiation. Leurs péchés sont transférés au taureau. C'est ce que signifie l'imposition des mains sur la bête. Dieu leur a fait comprendre clairement qu'ils étaient des pécheurs, même s'ils étaient à son service. Il l'a gravé sur leur cœur. En examinant la Bible, vous noterez que tous les hommes de Dieu étaient conscients du fait qu'ils étaient pécheurs. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Le psaume 40, verset 12. Mes amis, percevez-vous que vous êtes un tel pécheur? Dieu peut faire quelque chose pour vous si vous le percevez. Après tout, si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes assez malade, vous n'irez pas chez le médecin. De même, si vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes pécheur, vous n'irez pas à Christ. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Le psaume 38, verset 4. Mes amis, si vous avez un fardeau trop lourd à porter, vous trouvez quelqu'un qui peut le porter pour vous. Jésus vous dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. « Ne pensez pas que vous pouvez tromper Dieu. Il connaît la moindre chose à votre sujet. » Aussi bien lui raconter tout. Poursuivons notre lecture du Lévitique 8, verset 15 à 17. Moïse l'égorgea, près du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous ne pouvons pas apprécier ce rituel si nous ne comprenons pas la leçon spirituelle dont il est porteur. C'est le même rituel que le sacrifice d'expiation, sauf que le sang est mis sur les cornes de l'autel d'airain plutôt que sur l'autel d'or. Même l'autel qui est utilisé pour faire les sacrifices sanglants doit être consacré avec du sang. Ceci nous rappelle qu'il n'y a aucun mérite dans le bois de la croix, c'est-à-dire la croix elle-même. De nombreuses personnes, religieuses, autant catholiques que protestantes, pensent qu'il y a un certain mérite à avoir une croix ou à en ériger une sur un site. Mais installer une croix ne nous apporte pas de mérite devant Dieu. De nos jours, certaines personnes, au nom de la liberté religieuse, enfreignent celle-ci en exigeant qu'on enlève des croix de lieux publics. Un non-croyant n'aime peut-être pas voir une croix, mais soyons honnêtes, en ériger une ne nous donne pas de mérite devant Dieu. Les mérites se trouvent dans la personne qui a versé son sang pour nous à la croix. Il n'a pas personnellement péché, même s'il fut fait péché pour nous. Jésus-Christ n'était pas souillé par le péché. Selon la volonté de Dieu, il fut fait péché pour nous, même s'il était séparé des pécheurs. Maintenant, nous sommes rendus au verset 18, mais je ne lirai pas les détails du rituel, qui sont ceux de l'Holocauste, car nous les avons déjà vus. Donc, Aaron et ses fils observent le rituel de l'Holocauste. Ce rituel a suivi celui de l'offrande d'expiation. Il est impossible de comprendre la beauté et les mérites de Jésus-Christ tant que la question du péché n'est pas réglée d'une façon satisfaisante pour Dieu. Le sacrifice d'expiation illustre ce que Christ a fait pour nous à la croix. L'Holocauste illustre qui il est. Vous ne pouvez pas vraiment connaître Christ tant que vous ne venez pas à lui pour votre salut et que vous n'acceptiez pas qu'il soit votre substitut. Il a payé la pénalité méritée par vos péchés. Il est crucial que nous comprenions cela. En fait, dans le Nouveau Testament, la communion signifie que nous partageons les choses de Christ. Les prêtres devaient pénétrer dans le lieu saint pour en apprécier toute la beauté. L'extérieur n'avait rien d'extraordinaire. De même, le monde incroyant ne perçoit pas la beauté de Christ et le rejette. Par contre, l'enfant de Dieu découvre de nouveaux aspects de la beauté et de la gloire de Christ chaque jour. Versets 22 et 24 du Lévitique chapitre 8. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Le bélier utilisé pour la consécration était un sacrifice de culpabilité. Aucune offrande d'action de grâce ne fut faite. Pourquoi? Les prêtres étaient déjà dans le sanctuaire, le lieu de communion avec Dieu et d'action de grâce. Le sang sur le lobe de l'oreille symbolise une oreille capable d'entendre la voix de Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Christ. Dieu doit donner une oreille capable d'entendre. Le sang sur le pouce était essentiel pour servir. L'homme naturel dit qu'il désire donner à Dieu, mais c'est impossible sans être sauvé. Il faut être sauvé afin de pouvoir servir Dieu. Le sang sur l'orteil était nécessaire pour marcher dans les voies de Dieu. Quelqu'un dit qu'il fait une bonne vie. Vous vous trompez si vous pensez que votre bonne vie est suffisante. Tout ceci illustre le fait que la personne entière doit être présentée à Dieu. Le même rituel est suivi pour tous les prêtres. Nous ne ferons pas la lecture des versets 25 à 29. Ces versets nous enseignent que Moïse a pris toutes les offrandes et qu'il les a mis sur les mains d'Aaron et de ses fils et qu'il les a agitées devant le Seigneur. Aaron et ses fils se sont entièrement consacrés au Seigneur qui a accepté l'offrande. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Le verset 30 du Lévitique, chapitre 8. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Maintenant, Aaron et les prêtres ont été consacrés avec du sang et de l'huile. Le sang fut versé pour le pardon des péchés, c'est l'œuvre de Christ. L'huile représentait l'onction du Saint-Esprit. Les instructions pour tout cela se trouvent dans Exode chapitre 29, verset 21. Ceci est un symbole du Seigneur. Jésus lui-même a dit, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Évangile selon Jean chapitre 17, verset 19. Ceci nous rappelle que les croyants doivent se comporter dans ce monde comme des personnes rachetées par le sang de Christ, donc comme des enfants de Dieu. C'est ce qu'a voulu dire Jude dans son épître. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Verset 23. Nous pouvons assister à des réunions de consécration, faire des promesses et prendre toutes sortes d'engagements. Mais j'ai une question pour vous, la vraie question. La voici. Que pensent de toi tes voisins? Que pensent de toi tes compagnons de classe? Est-ce que les personnes avec qui tu travailles croient que tu sers Dieu? Les gens te perçoivent-ils comme une personne consacrée? Un membre de notre équipe fut attiré à Christ premièrement par un groupe de jeunes croyants consacrés à l'université. Il pensait premièrement que ces chrétiens étaient fous, mais très vite, il désirait leur folie, car il perçut chez eux une joie et un amour qui étaient les fruits de l'esprit. Malheureusement, très souvent, ce que le monde voit chez les chrétiens ne les attire pas à Christ. La vie du croyant est la première Bible que lisent de nombreux incroyants. Notre vie reflète-t-elle la gloire et l'amour de Christ? Versets 31 et 32. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné, en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. les prêtres doivent manger ce qui reste. Ceci illustre le fait que les croyants doivent toujours mettre entièrement leur confiance dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Le croyant éprouve de la paix et de la satisfaction dans la mesure où il demeure en communion intime avec Christ et qu'il se nourrisse de la personne et l'œuvre de Christ. Rien ne doit rester. Tout doit être consommé ou brûlé. Rien ne doit se gaspiller ou pourrir. Combien avons-nous besoin de Jésus-Christ? Les versets 33-36 nous enseignent qu'il devait y avoir 7 jours de consécration et de méditation. Les prêtres devaient demeurer continuellement devoir à l'entrée du tabernacle. C'est comme Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Si nous nous réveillons au milieu de la nuit, nous pouvons venir à lui dans la prière. Il est là pour nous. Si nous nous trouvons dans une situation difficile et inquiétante, Christ est là. Il est toujours là. Il est toujours disponible. Ce chapitre se termine en soulignant encore une fois que tout cela fut fait d'après les ordres donnés par l'Éternel. Nous verrons pourquoi il a fait cela au prochain chapitre. Nous passons maintenant au chapitre 9, qui est très intéressant, car Aaron et ses fils sont initiés au rôle de sacrificateur et nous y trouvons tous les détails au sujet du service quotidien observé au tabernacle. Excepté pour la fête d'expiation, très peu de détails sont donnés ailleurs dans la Bible au sujet du rituel quotidien des prêtres. C'est ici que les prêtres le sont devenus pour la première fois. Il n'était pas suffisant de descendre d'Aaron. Il fallait aussi être consacré pour devenir sacrificateur. Le mot hébreu pour consécration signifie « remplir les mains ». Cela signifie que nous venons à Dieu les mains vides. Se consacrer, ce n'est pas promettre de devenir missionnaire ou de faire autre chose pour le Seigneur. Se consacrer, c'est venir à Dieu les mains vides et lui demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dieu remplit alors nos mains et il nous indique sa volonté. C'est ça la consécration. Trop de personnes pensent qu'il faut apporter quelque chose à Dieu pour être consacré. Certaines personnes pensent qu'elles donnent beaucoup à Dieu lorsqu'elles se consacrent et se donnent à Dieu. En fait, mes amis, nous ne lui donnons pas grand-chose. Lorsque je me suis consacré, Dieu a reçu un paquet de péchés. C'est tout. Se consacrer, selon le mot grec utilisé dans la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament. Se consacrer signifie la fin ou le but. Se consacrer, c'est accomplir l'œuvre que Dieu nous a réservée. Nous accomplissons le but pour lequel nous sommes nés, celui de compléter le corps de Christ. Christ est venu sur terre afin d'accomplir la volonté de Dieu en nous conduisant à sa gloire. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Hébreux chapitre 2, verset 10. Jésus était consacré, et il agissait avec un but. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Hébreux chapitre 7, verset 28. Dans ce chapitre, c'est le rôle de Christ qui est illustré, pas nos attributs. Nous voyons Jésus accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Lévitique chapitre 9, versets 1 et 2. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. » Encore une fois, ce sont les instructions de Dieu qui sont exécutées. Les instructions des 7 jours furent suivies, et maintenant, le 8e jour, Aaron commence son travail de souverain sacrificateur. Le huitième jour est le premier jour de la semaine, et c'est le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Christ entreprit son rôle de souverain sacrificateur après sa mort et sa résurrection. Hébreux, chapitre 8, verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 10 à 12, affirme que si Christ était sur terre, il ne pourrait pas être notre souverain sacrificateur. C'est après être monté au ciel qu'il est devenu souverain sacrificateur dans le tabernacle, qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est en offrant son propre sang qu'il a pu pénétrer ce lieu très saint. Aujourd'hui, nous avons le souverain sacrificateur parfait, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux, chapitre 5, verset 9. Nous obéissons à Christ lorsque nous le croyons et que nous mettons en lui notre confiance. Pour obéir à Christ, il faut premièrement devenir croyant et chercher à faire sa volonté. C'est là la consécration, mes amis. Venir à Christ les mains vides et recevoir de lui les instructions. Il faut être prudent avec la question de consécration, mes amis. Les cérémonies de consécration ne m'impressionnent pas. J'ai vu des chrétiens capables de choses méchantes se lever et prononcer les plus belles paroles lors de cérémonies de consécration. C'était tendre, émotionnel et très, très hypocrite. Puissions-nous appartenir vraiment à Christ comme nous le devrions. Versets 3 et 4. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile. » Car aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. Nous avons ici un sacrifice d'expiation, un holocauste et un sacrifice d'action de grâce. Voilà le chemin pour nous approcher de Dieu. La mort de Christ, suivie de l'intercession de notre souverain sacrificateur à la droite de Dieu. Dieu devait apparaître ce jour-là. Ce qui confirme cette vérité. Aaron fait un sacrifice d'expiation et il suit les instructions méticuleusement. Pourquoi est-ce que le sacrifice d'expiation est fait en premier? Lorsqu'on a présenté les offrandes, on débutait par l'Holocauste pour terminer avec le sacrifice d'expiation. Bien. Les offrandes furent présentées premièrement selon la perspective de Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui s'approche de Dieu, et cela se fait de son point de vue. C'est en tant que pécheur que l'homme s'approche de Dieu. Nous sommes pécheurs, et la question du péché doit être réglée avant que nous puissions approcher Dieu. Lévitique 9, versets 22 à 24. Aaron leva ses mains vers le peuple, et il le bénit. Puis, il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Chers amis, le seul et unique moyen par lequel vous pouvez entrer en la présence de Dieu, c'est par Christ. Prochaine émission, Lévitique 10.
Merci, Régent. Je suis contente de savoir que même les grands hommes de Dieu étaient conscients qu'ils étaient des pécheurs. Ils ont dû faire ce que j'ai fait, eux aussi, c'est-à-dire se repentir et recevoir Christ comme sauveur. Régent nous disait tantôt qu'on ne peut pas connaître Jésus tant qu'on ne vient pas à lui pour notre salut, tant qu'on n'accepte pas que c'est lui notre substitut, que c'est lui qui a payé la dette la pénalité pour nos péchés. Je me souviens quand j'étais toute jeune, quand je n'étais pas encore trop endurcie par le péché, je cherchais à connaître Jésus. Je posais des questions à des gens que je croyais religieux. Ils n'avaient jamais de réponse pour moi. J'étais très déçue et j'ai vieilli et j'ai cessé de chercher Dieu, de chercher à le connaître. Mais plus tard, j'ai rencontré une personne dont la vie reflétait la gloire et l'amour de Dieu. Juste par la manière dont elle vivait, elle me redonnait ce désir de mon enfance, celui de connaître Dieu, de connaître Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Cette personne était consacrée à Dieu. Elle ne disait pas qu'elle l'était, mais sa vie le démontrait. Je pouvais facilement voir qu'elle possédait un amour qui ne ressemble pas à celui du monde, une joie qui dépassait les plaisirs du monde, une paix qui surpassait toute intelligence, comme nous l'enseigne la Bible. Et je me suis mise à lui poser des questions. Et même si elle n'avait jamais pris de cours de théologie, elle était capable de me donner des réponses satisfaisantes, des réponses qu'enseigne la Bible, la parole de Dieu. Et elle m'a fait voir que Christ était disponible pour moi, qu'il avait souffert pour moi, qu'il était mort sur la croix pour moi, et qu'il était ressuscité glorieux, qu'il était monté au ciel, qu'il était prêt à intercéder auprès du Père pour moi, si je mettais toute ma confiance en lui pour le salut qu'il m'offrait. Jésus a frappé à la porte de mon cœur. J'ai ouvert la porte, et tout simplement, il est entré. Il m'a sauvé. Il m'a donné la vie éternelle, parce que j'ai cru que c'était pour moi qu'il était mort sur la croix. Quand j'ai reconnu que j'étais une pécheresse perdue et incapable de me sauver moi-même, quand je lui ai demandé de me sauver, il l'a fait. C'est aussi simple que ça. Mon ami, Jésus t'aime, toi aussi, peu importe qui tu es. Ce n'est pas juste pour moi qu'il est mort sur la croix, c'est pour toi. Peut-être que tu te penses trop pécheur pour qu'il puisse te pardonner tout le mal que tu as fait. Peut-être que tu penses que tu n'es pas assez un grand pécheur, que tu n'as pas besoin. Mais on est tous pécheurs et on a tous besoin du salut que Dieu donne gratuitement. Alors je t'encourage à ouvrir la porte de ton cœur, à laisser Jésus entrer. Il veut te sauver, il veut te donner la vie éternelle. Est-ce que tu crois en Jésus? Crois-tu que c'est pour toi qu'il est mort sur la croix? Mais demande-lui de te sauver. Demande-lui cette vie éternelle qu'il donne à tous ceux qui croient.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans les déjeuners de l'espoir, et ici à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.